Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Vous êtes bien sur VOA Afrique. Et c'est bien l'émission Sporama, Cannes oblige, nouveau générique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacoubou, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si au Caire en Égypte. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Roger Stéphane est en direct depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Roger, bonsoir.
Bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue à Abidjan.
Et direction Kinshasa pour retrouver Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise. Thierry, bonsoir. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Ce fut un week-end de foot sur le continent. Cannes oblige. Nous sommes au quatrième jour de la Cannes Égypte 2019 qui a commencé depuis vendredi dernier. Trois matchs au programme de ce soir. Dans le premier qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, les éléphants l'ont emporté 1-0 devant les Bafana Bafana sous 35 degrés et dans un stade vide. Roger Stéphane, je commence par vous. Les Ivoiriens, nouvelle génération, on va dire, n'ont pas montré grand-chose, mais ont quand même été sortis de leur torpeur par un but de Jonathan Kodia à la 64e. Roger Stéphane.
Oui, vous l'avez bien dit, mon cher Yacouba Ouédraogo, les éléphants n'ont pas été très très brillants, mais ça a été un match intéressant tout de même avec beaucoup de suspense. Un match ouvert, équilibré dans l'ensemble, on va dire, avec deux équipes qui ont eu chacune leur temps fort. Les éléphants évoluent dans un 4-3-3 classique très offensif avec Gradel, Pepe et Kodia. Ils ont procédé probablement par des jeux longs pour jouer sur la vitesse de Gradel et Kodia. Et puis Pepe, sur son côté, a beaucoup percuté. Il y a eu deux grosses occasions en première période. Un coup franc de Nicolas Pepe sur la barre à la 31e minute. Et puis ensuite, une action dans la foulée de Jonathan Kodia qui bute sur l'excellent Williams, le portier sud-africain. Les Sud-Africains ont été physiques, très présents dans le duel aérien, avec une grosse bataille dans le milieu de terrain. Et puis donc arrive cette 65e minute, action de toute beauté de l'équipe ivoirienne. Deux passes, Wolo Koulibaly depuis sa base arrière, pour Gradel, centre en retrait pour Kodia. C'est le but des éléphants qui libère toute la Côte d'Ivoire et toute l'équipe. Oui, ça a été un très bon match des éléphants dans l'ensemble qui rassure devant une très très belle équipe des Bafana Bafana.
Toujours ce soir, Amine Birouk, on a vu la Tunisie qui a été contrainte au partage des points par l'Angola, 1-1.
Et la Tunisie qui a demandé Yacouba quasiment l'heure à la fin de la rencontre, parce que l'équipe angolaise, après un début plutôt moyen, s'est fait prendre en compte sur cette action rupture en première mi-temps. Fajani Siassi a obtenu un pénalty transformé par le vétéran Sakhni. Et on a vu une équipe tunisienne qui a commencé à jouer de manière plus défensive, qui a quasiment refusé le jeu en deuxième mi-temps. Ça fait le bonheur d'une équipe angolaise plus entreprenante, qui a proposé un football assez séduisant et qui a vu ses efforts récompensés à un quart d'heure de la fin. Un résultat très probant pour l'équipe d'Angola et qui pose de très nombreuses interrogations par rapport à la sélection coachée par Alain Giresse. La Tunisie qui avait fait des rencontres amicales assez probantes, qui possède un des effectifs avec la moyenne d'âge la moins élevée, 24 ans de moyenne d'âge. L'équipe est plutôt intéressante avec les joueurs du calibre de Wadi Khazri qui a été aujourd'hui élu meilleur homme du match, mais qui laisse sur la route deux points qui pourraient être très importants dans le décompte final, d'autant plus qu'il y aura dans quelques instants un Mali-Mauritanie qui pourrait changer la donne dans ce groupe E.
Merci Amine, justement, et donc toujours ce soir, l'un des pays novices de la compétition, la Mauritanie, vous le disiez, fera son baptême du feu dans une Coupe d'Afrique des Nations à 20h temps universel dans le groupe E, et donc tout à l'heure. Alors Élisée, ça ne sera pas une partie du plaisir pour les Maliens.
Non, surtout vu la grande performance réalisée, surtout par les Mourabitoun lors des éliminatoires. Il ne faut pas oublier, les Mourabitoun ont éliminé simplement le Burkina Faso avec un très grand Bertrand Traoré en forme. Donc il faudra auditer hein, très fort cette sélection de la Mauritanie. Maintenant, les Maliens avec cette belle génération où il y a eu une très belle transition hein, entre les anciens, les nouveaux, les Samaseko, les Aïdara, c'était très jeunes joueurs qui sont pétus de talent, j'allais dire, surtout Koïta, hein, le jeune de U-20 qui a fait forte sensation lors du dernier mondial hein, qui a eu lieu en Pologne. Donc, c'est-à-dire que les Maliens ont de la ressource, ils ont de la valeur, mais il faut faire très attention puisque en face, c'est une très grande équipe hein, de la Mauritanie amenée par certains Corentin que nous connaissons très bien qui a fait qualifier pour une première fois hein, l'équipe de la Mauritanie d'abord à une coupe d'Afrique des Nations réservée aux locaux et puis la grande compétition même africaine, la CAN. Donc ça va être un peu difficile hein, pour les Maliens, mais attendons de voir puisque ce sera pratiquement un duel ouest-africain. Les deux pays sont frontaliers d'ailleurs, donc c'est-à-dire que c'est un choc qu'on attend cet après-midi.
On attendra de voir, mais en attendant également, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. L'émission revient tout de suite. Bien évidemment, nous revenons sur les matchs passés, toujours dans ce groupe D. Les Marocains ont pris le dessus sur la Namibie dans la douleur 1-0. Il a fallu attendre la 89e minute de jeu, un but contre son camp d'un joueur namibien, Itamounua Kemouine, pour voir les Lions de l'Atlas sourire enfin. Les Marocains ont dû faire preuve de patience selon leur coach Hervé Rena.
Je suis satisfait de la victoire. Il y a toujours des choses à dire, à redire, à améliorer. On va dire, heureusement, parfois il y a des équipes qui démarrent très vite et qui vont pas très loin. Donc, à part en 2012, j'ai jamais été très bon pour démarrer les Coupes d'Afrique. Donc, on espère, Inch'Allah, que c'est de bon augure.
Hervé Rena, coach du Maroc. Alors, Amine, les Lions de l'Atlas sentent-ils bien finalement?
Ils s'en tirent plutôt bien, ils étaient en mode diesel et n'ont pas dissipé tous les doutes nés des deux rencontres amicales disputées la semaine dernière contre la Gambie et la Zambie. Une équipe du Maroc qui a paru souffrir des conditions atmosphériques, il a fait très très chaud au Caire, on était à l'heure du match à quasiment 39 degrés centigrades. Il y a eu aussi une équipe namibienne bien en place sur le plan défensif. Elle n'a certes rien proposé offensivement parlant, mais c'est une équipe namibienne qui a posé d'énormes problèmes aux attaques marocaines. Une équipe marocaine plutôt imprécise, plutôt brouillonne, avec des joueurs qui ont tenté la solution individuelle, notamment en fin de rencontre, Ziyech, Boufal. Et puis, il y a eu ce coup de pouce du destin. Si en Coupe du Monde, c'est un joueur marocain, en l'occurrence Bouazouz, qui avait marqué contre son camp dans les arrêts de jeu face à l'Iran aujourd'hui, c'est un coup de pouce du destin plutôt favorable avec celui de Kemouini à la 89e minute sur un énième coup franc botté par le joueur de l'Ajax, Hakim Ziyech. Ça fait le bonheur de l'équipe du Maroc, mais ça ne dissipe pas tous les doutes dans l'optique d'une confrontation qui pourrait ressembler à une finale dans ce groupe D entre le Maroc et la Côte d'Ivoire vendredi prochain. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même 11 ans que l'équipe du Maroc n'a pas remporté son premier match de la CAN. C'est une victoire au forceps, mais c'est une victoire qui va permettre au groupe de reprendre confiance en lui et surtout de se préparer avec un peu plus de sérénité pour la suite de la CAN.
Alors, Jules, la Namibie a bien tenu le coup jusqu'à ce but contre son camp de Kemouini.
Oui, bien sûr. La Namibie a joué son jeu parce que pour les équipes dites relativement plus faibles, et il était important de faire un coup face au leader ou alors au favori de la poule pour pouvoir ainsi être en meilleure position lorsque la différence se fera notamment au niveau de la troisième place. Donc, ces équipes viennent souvent d'abord pour défendre et puis si elles ont une opportunité ou des passages, des temps forts qu'elles peuvent exploiter, elles le font. Et c'est ce que la Namibie était venue faire et c'est ce que d'autres ont fait et les Angolais ont fait par exemple aujourd'hui. Donc, en fait, le scénario ne nous étonne pas et il faudra pour ces premiers matchs de la CAN où toutes les équipes sont encore bien fraîches s'attendre à la répétition d'un tel scénario.
Début réussi aussi pour le Sénégal, les Lions de la Teranga, sans Sadio Mané suspendu, ont logiquement remporté leur premier match contre la Tanzanie 2-0. On va écouter le coach Aliou Cissé, satisfait pour les 3 points pris.
Nous avons pu avoir une belle entame aujourd'hui en rentrant très bien dans cette compétition. Vous savez, dans une compétition telle que la CAN, la Coupe du Monde, il est important ce premier match-là. J'ai envie de dire que c'est ce qui motive en réalité le reste de la compétition. Et l'avoir gagné aujourd'hui contre la Tanzanie, c'est très bien. Mais comme je dis, les garçons, il faut les féliciter. Ils ont su respecter les stratégies, ils ont su respecter la philosophie de jeu qu'on a voulu mettre en place. Et on a pu se créer des opportunités, marquer des buts. Je crois que c'est très bien pour le moral et c'est très bien pour la suite.
Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Alors, Amdine, sans Sadio Mané, je le disais, suspendu, le favori de ce match a fait l'essentiel, on va dire.
Oui, tout à fait, Yacouba, vous avez raison. Le Sénégal a réussi quand même son entrée dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant devant la Tanzanie sur le score de 2-0 sans forcer. Et puis, sans le mettre en jeu, Sadio Mané, c'est normal. Donc que l'entraîneur Aliou Cissé soit satisfait de la prestation de son équipe. Il faut dire que ce match a été gagné grâce au milieu terrain, puisque le président composé de Kanegué, qui a été intronisé capitaine, et qui a été bien épaulé hein, par Pape Aliou Ndiaye, mais également il y a eu Crépin qui a été quand même la plus grande satisfaction de cette rencontre. D'ailleurs, pour son premier match en Coupe d'Afrique, il a non seulement marqué un but, mais il a été élu homme du match. Donc le Sénégal qui a bien négocié ce match, le Sénégal qui a gagné sa forfait face à une modeste équipe de la Tanzanie, il faut le dire. Mais l'essentiel a été fait puisqu'il faut gagner, ils l'ont fait, marquer deux buts, ils l'ont fait, par la marquette. Maintenant, il va falloir attendre 40 jours pour voir que le Sénégal doit rencontrer le Sénégal qui est également...
On attendra de voir tout cela et on espère... Oui, Amdine, on attendra de voir tout cela, mais on espère également que la connexion va se rétablir avec vous. Toujours dans ce même groupe, l'Algérie a fait le boulot 2-0 devant le Kenya. Victoire facile, hein, selon Jamel Belmadi, coach des Fennecs.
J'ai pas eu l'impression que c'était un match difficile. Vraiment, sans prendre de haut cette équipe du Kenya, c'est un match qu'on a très très bien préparé. C'est nous qui l'avons rendu facile. Première mi-temps, on peut dire, le match est quasiment bouclé. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu accélérer un petit peu plus le jeu, peut-être marquer un troisième but, mais bon, on va se contenter de ce 2-0.
Jamel Belmadi, l'entraîneur donc de l'Algérie. Samedi, l'Ouganda a surpris la RDC 2-0 et est en tête du groupe A devant le pays hôte qui a souffert face au Zimbabwe pour arracher le 1-0. Écoutons Florent Ibengue, coach de la RDC.
C'est ça être professionnel. Je crois que on va pas continuer à pleurer. Je le dis, hier on a perdu. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, il n'y a pas de mort dans l'équipe. Hein. Ça, il n'y a pas de mort, il fait beau. Donc on a la chance de faire un beau métier. Donc il faut le faire avec de la joie et de la bonne humeur. Hier on a fauté, on n'a pas gagné. Ça fait partie du football. On regrette de ne pas avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Maintenant il faut se remobiliser pour donner le meilleur de nous-mêmes, quel que soit le résultat du mercredi.
Flora Ibengue, le sélectionneur des Léopards de la RDC. Alors Thierry, par deux fois sur deux coups de pied arrêtés, Flora Ibengue et les Léopards ont plié les chines. Même s'il ne faut pas pleurer.
Ah oui, hein, il ne faut pas pleurer, mais les Léopards sont déjà sous pression. Attention, parce que le match de ce mercredi, c'est contre le pays hôte, c'est contre l'un des favoris de son tournoi, c'est l'Égypte. Les parents ont bien entamé cette rencontre et voudraient se mettre à l'abri avec un deuxième succès face à des Léopards qui n'ont plus droit à l'erreur, qui doivent absolument... au minimum, obtenir un match nul et au maximum l'emporter face aux Pharaons, alors que ça sera difficile, d'autant plus que les billets pour ce match sont déjà achetés depuis hier, donc les supporters congolais ne pourraient même pas entrer au stade. Pour revenir au non-match des Léopards, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Ici à Kinshasa, au pays, les gens sont énervés suite à ce non-match des Léopards de la République démocratique du Congo, qui se sont fait prendre, comme vous l'avez dit, sur deux coups de pied arrêtés. D'ailleurs, Top Congo FM a interrogé Marcel Tisserand, l'un des défenseurs centraux de cette équipe, qui a dit que nous étions distraits car même pendant la préparation, nous n'avons pas assez travaillé cette phase de jeu. Donc, le sélectionneur des Cranes d'Ouganda, des Sabres, a très bien préparé son match et a très bien, s'est très bien servi de faille de Léopards de la RDC. Et sur deux coups de pied arrêtés, il a réussi à remporter cette rencontre face à des Léopards lourds, désorganisés sur le terrain, qui ont complètement été bouffés par cette surprenante formation ougandaise et qui devraient montrer un tout autre visage s'ils veulent poursuivre leur aventure dans cette 32e Coupe d'Afrique des Nations.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Alors, Élysée, c'est le premier succès en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1978 pour l'Ouganda et c'est bien mérité.
Bien évidemment, une équipe homogène, hein, amenée par son gardien de but, l'emblématique Denis Onyango de Mamelodi Sundowns. On a l'habitude de le suivre en Ligue africaine des champions. Une équipe qui joue sans complexe, hein, avec beaucoup d'engagement surtout. Et puis, ce jeu d'équipe, on les a vus très engagés physiquement, puisqu'ils étaient sur tous les fronts. Donc, c'est dit que l'ancien entraîneur de la SEC d'Abidjan, Sébastien Desabre, a fait un très bon travail sur ce lit. Il connaît bien sûr le football africain, non seulement il a entraîné la SEC, mais il a aussi entraîné l'aspirant de Tunis avant d'atterrir du côté de Kampala. Donc c'est dire que c'est quelqu'un qui maîtrise le football africain et il a certainement vu les vidéos, hein, du match de la RDC, surtout lors des éliminatoires contre le Zimbabwe, où à chaque fois, lors des deux confrontations, que ce soit à Kinshasa ou encore à Harare, les Congolais démocratiques ont été mis en difficulté. Donc il a dû certainement suivre ces deux matchs, hein, pour pouvoir contrer les plans de Florent Mbédé. Aujourd'hui, Florent Mbédé est dans une situation très difficile. Les Congolais ont besoin d'une victoire ou bien d'un résultat contre le pays où qu'il soit. Pourquoi pas déterminer une meilleure troisième ou bien de trouver une deuxième place dans ce groupe.
Toujours donc dans ce groupe A. Alors Amine, on a vu le pays hôte, l'Égypte, souffrir, hein, face au Zimbabwe.
On a vu une équipe d'Égypte à deux visages, ou à deux vitesses différentes. Une équipe d'Égypte plutôt entreprenante dans le premier quart d'heure de la rencontre avec quelques actions intéressantes. Et puis une équipe d'Égypte plus prévisible dans la phase offensive lorsqu'il a fallu tout mettre sur le dos de Mohamed Salah. C'est plutôt d'ailleurs sur une action qui est venue de l'autre côté avec le très virevoltant Trezeguet que l'Égypte a pu ouvrir la marque. Peu avant la fin de la première période, une action superbe avec un crochet extérieur et une frappe enveloppée du pied droit. Et puis on a vu une équipe d'Égypte plutôt souffrir en fin de rencontre face à des Zimbabwéens sans complexe. Une équipe du Zimbabwe qui vient décider à jouer son rôle de trouble-fête dans ce groupe A. L'Égypte n'a pas rassuré ses supporters, mais l'Égypte a fait l'essentiel. Elle a pris les trois points, même s'il y a de très nombreux points d'interrogation sur le rendement de Mohamed Salah et sur une certaine Salah dépendance dans cette équipe entraînée par le Mexicain Javier Aguirre.
Dans le groupe B, le Nigeria est leader, hein, grâce à sa victoire 1-0 face aux novices Hirondelles burundaises. Pardon. Alors, Roger Stéphane, les Burundais qui découvrent, hein, la compétition ont tout de même donné du fil à retordre aux Nigériens.
Absolument. C'est une équipe qui était bien organisée et qui a joué sans complexe face aux Super Eagles. Une équipe avec un très très bon repli défensif qui joue bien sans ballon. En seconde période, malheureusement, l'équipe a joué un peu trop bas et elle a laissé le champ aux Nigériens qui en ont profité. Il y a eu un bon réveil en fin de match, mais un réveil un peu tardif. Mais il faut reconnaître effectivement que ces Burundais-là sont l'une des belles surprises de cette compétition qui ont bien tenu tête au Super Eagle. On s'y attendait plus ou moins. C'est des équipes qui ont été bien performantes dans les différentes phases éliminatoires de cette compétition. Le Nigeria, sur ce match-là, à mon avis, dès le départ, a manqué un peu de patron. Il n'y avait pas ce chef d'orchestre pour conduire cette équipe. Iwobi a essayé par moments sur son côté. En deuxième période, il y a eu plus de pression du côté des Nigériens qui ont été dominateurs. Et puis il y a eu le coaching gagnant de Gennaro Torreira qui a fait entre Moussa et Ighalo. C'est Ighalo donc qui fait la différence. Ça montre bien que les équipes qui ont un banc de touche, comme c'est le cas avec l'équipe du Nigeria, malgré ses nombreuses absences et sur ses bons emplacements, avec un banc de touche, donc peut faire la différence. Bon, le Burundi peut avoir des regrets parce que l'équipe a bien joué face à cette formation du Nigeria qui est présenté comme l'un des outsiders de la compétition. Mais attention, le Burundi n'a pas encore dit son dernier mot parce que derrière, il y a deux équipes qui, à mon avis, sont jouables, à savoir la Guinée et l'équipe de Madagascar qui ont fait match de 2-0. Je pense que le Burundi a certes perdu face à une bonne équipe du Nigeria, mais le Burundi a encore le mot à dire dans cette compétition.
Merci Roger Stéphane. Madagascar justement a créé, hein, la surprise en tenant tête à la Guinée 2-2. Alors Jules, les Barias ont montré, hein, de belles choses dans ce match.
Oui, mais bien sûr, mais il fallait, disons que, être averti pour savoir que cela est possible, parce que quand on a vu les Malgaches déjà tenir un échec et avec la manière le Sénégal lors de la phase éliminatoire à Antananarivo et Donc, et la manière dont ils ont joué, et on pouvait s'attendre à ce que dès qu'ils tomberaient sur une équipe africaine qui fait partie du milieu du tableau, même si elle est en progression, il y aurait des étincelles. Et c'est ce que nous avons eu là lors de ce match. Pour ceux qui suivent réellement la progression de Madagascar, ce n'est pas une totale surprise.
Alors Thierry, on a vu le Burundi, on a vu Madagascar, pas du tout ridicule hein, pour leur premier match. On verra la Mauritanie face au Mali ce soir. Ces pays qui découvrent hein, la CAN font mieux que se défendre.
On peut aller loin, citer également le Kenya, la Tanzanie, malgré leur défaite. On peut citer les clans d'Ouganda, on peut citer toutes ces équipes qui n'ont pas assez d'expérience internationale, qui ont surpris de manière agréable hein, dans leur jeu, dans leur envie, dans leur organisation technique et tactique. Bref, c'est une CAN qui est de très bon augure. On a surtout vu également des favoris annoncés souffrir face à toutes ces formations. Amine va parler tout à l'heure du Maroc qui a eu toutes les peines à l'emporter. On a évoqué le Nigeria. On pourrait également évoquer d'autres sélections qui ont eu à peiner hein, pour l'emporter face à ces jeunes formations, on va dire, en international, à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de très, très bon augure et c'est ce que Jules rappelle régulièrement, d'ailleurs, qu'il n'y a plus de petites équipes du tout en Afrique et ces sélections, ces différentes sélections qui vont certainement jouer le jeu jusqu'au bout et à fond, justement, le démontrent. Et c'est de bon augure, hein, ça nous prépare à une très très belle fête africaine. Attention, il risque d'y avoir des surprises dans certains groupes et on sera étonné.
Alors Amdine, vous êtes sur place au Caire. On craignait que les stades soient vides lorsque le pays hôte, l'Égypte, ne joue pas. C'est le triste constat jusque-là.
Tout à fait. Quand l'Égypte ne joue pas, les stades sont vides. On dirait que le match de juillet a voulu faire un peu. C'est vrai, c'est bien l'orat. Mais c'est la plus réalité. Mais il faut comprendre, à chaque fois que la Coupe d'Afrique des Nations est...
Amdine, on va essayer de vous reprendre parce que la connexion n'est pas du tout ça. Alors, Amdine avait commencé déjà à parler de cela. On a remarqué que lorsque l'Égypte ne joue pas, les stades sont vides. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de mobilisation ou c'est un manque d'intérêt pour les autres matchs simplement, de la part des supporters égyptiens?
L'Égyptien moyen ne s'intéresse qu'à son équipe nationale. Il pourrait à la rigueur venir assister en 12e joueur au match des pays arabes, Maroc, Algérie, Tunisie, peut-être Mauritanie, mais on les verra de moins en moins mobilisés. Donc à moins qu'il y ait une mobilisation de la part des supporters de ces équipes nationales, on aura des stades clairsemés, voire des stades très vides. Je sais qu'il y a près de 7500 Marocains qui comptent se déplacer en Égypte pour le premier tour. Est-ce que ce sera suffisant pour remplir, par exemple, les stades en partie lors des matchs du Maroc? C'est un peu gros point d'interrogation. Même chose pour les Tunisiens, qui ont la possibilité aussi de voyager. Il y a quand même 2h30 de vol. Mais le fait que l'Égypte soit très loin, le fait aussi qu'on n'ait pas encore les possibilités pour les fédérations nationales ou pour ces pays d'avoir des vols charter pour pouvoir permettre aux supporters de se déplacer à des prix assez bas, ça pose ce problème de rentabilité des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Mais que ça se déroule en Égypte ou ailleurs, ce problème sera toujours posé.
Alors, Jules, demain, on va assister au dernier match de la première journée dans chaque poule. Quelle appréciation d'ensemble vous faites du niveau de la compétition à la veille quand même de ces deux rencontres-là?
Non, mais disons que les sentiments sont positifs dans la mesure où toutes les équipes se défendent, la compétition a un niveau homogène, contrairement aux compétitions du passé. Et je crois que cela nous promet surtout une seconde partie de la compétition très animée à partir du moment où on aura les matchs à élimination directe dès les huitièmes de finale.
Merci. Gilles Valentin Ngoué, on évoque à présent les matchs de demain. Ces rencontres vont boucler la première journée de la phase de poule, je le disais tantôt. C'est le groupe F qui entre en jeu. Deux rencontres donc au programme. Le Cameroun jouera la Guinée-Bissau et le Ghana fera face au Bénin. Élysée, les écureuils auront fort à faire face au Black Stars. Très rapidement.
Oui, il faut dire que ce sera un match très difficile hein, pour les Écureuils, surtout pour les deux équipes. Ce sera pratiquement la 14e fois que les deux équipes s'affrontent. La dernière fois, c'était en 2009, lors justement des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Angola 2010. La dernière qu'a participé d'ailleurs les Écureuils, ici à Cotonou, le Bénin s'est imposé sur la plus petite hein, des matchs 1-0. Depuis, les deux équipes ne se sont plus affrontées. Il faudra dire que le Ghana a une très belle expérience en Coupe d'Afrique des Nations, puisque déjà plusieurs fois demi-finaliste, donc en face le Bénin va retrouver la compétition 9 ans après. Donc.
Merci Élisée Mpatine depuis Boyukan au Bénin. Donc Sporama qui s'achève ici devant ce micro Yacouba Ouédraogo. À la réalisation Michel Joseph, on se dit à lundi prochain.